RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, François Pinet.
On est de retour dans l'after jusqu'à minuit, toujours avec François Manardeau et Samy Traoré. Encore une heure de foot et on va parler des sujets qui fâchent. Dans un instant, la vidéo. Ah, la vidéo, c'est un sujet qui dit
j'ai client.
Bah, donc c'est un sujet qui fâche.
Oui, c'est véridique.
Tu verras, en fait, ceux qui sont pour la vidéo, je vais te dire.
On en parlera plus.
Je vais te dire, ceux qui sont pour la vidéo, ils ont leur argument et ils ont raison. Et ceux qui sont contre la vidéo, ils ont leur argument et ils ont raison.
Donc, en général, qui va arbitrer
ce sont deux familles qui ont du mal à se comprendre et à s'écouter.
Ben, c'est le temps qui va arbitrer cette affaire.
C'est bien dit, ça.
Non, mais de toute façon, il n'y a qu'un arbitre qui est sur le terrain.
Oui, mais maintenant, il y a des arbitres qui sont dans les...
Non, mais eux,
t'as vu,
eux,
avec la vidéo, les arbitres, ils sont dans la... Non, on va en parler dans un instant. Vous voyez, vous êtes déjà partis. Dans un quart d'heure environ, on parle des joueurs qui boycottent l'entraînement. C'est souvent le cas en période de mercato. C'est à nouveau le cas cette année. C'est le cas notamment de Thibaut Courtois qui veut absolument rejoindre le Real Madrid. On parlera de son cas dans un instant. Est-ce que d'après vous, ils ont raison de partir au bras de fer? N'hésitez pas à nous appeler au 3216 sur le hashtag RMC Live sur Twitter ou vos messages sur Direct Studio sur l'appli RMC. Justement, il y a beaucoup de messages sur le hashtag RMC Live suite. Vous êtes moqué de Jérôme Boateng il y a un instant. Jérôme Boateng, juger Boateng uniquement sur la Coupe du Monde et le faire passer pour une pipe, ça va pas du tout, nous dit Paninich, qui est visiblement un fan de la Mannschaft. Hashtag RMC Live. Voilà, Boateng au top de sa forme, c'est bien plus que 50 millions en pleine possession de ses moyens, c'est un top 5 défenseur mondial.
T'entends ce qu'il a dit? Au top de sa forme, ça fait combien de temps qu'il a pas été au top de sa forme?
Refais-toi les matchs de Boateng, François Manardeau, au Bayern, quand il n'est pas blessé. C'est top 5 mondial à son poste, nous dit Pagisinho. Heureusement que les clubs jugent pas uniquement sur une Coupe du Monde.
Tu juges pas que la Coupe du Monde.
Parce que le mec, il fait une Coupe du Monde un peu comme le reste de ses coéquipiers, catastrophique. Et tout d'un coup, tu as, allez.
Mais oui, mais c'est le jeu.
Le front. Mais c'est le jeu, mais ça me fait, et j'ai le droit de
trouver ça. Il y en a qui sont d'accord avec toi. Il y en a qui sont d'accord avec toi.
Attention, c'est d'être champion du monde.
J'ai jamais dit que c'était pas un bon joueur.
Mais là, depuis un moment, il a du mal. Avec les blessures qu'il enchaîne, forcément, il a moins de compétition, il est moins bon, c'est tout.
C'est sympa de venir au secours de François Manardeau, qui va pouvoir lire plein de tweets.
Ne venez pas au secours de moi, Ne venez pas à mon secours, pardon, ça sert à rien.
Allez, d'abord, on va parler, avant de parler de la grève des joueurs, c'est la révolution en Ligue 1. Et oui, la vidéo débarque, vous le savez, ça sera donc dès vendredi pour le match d'ouverture Marseille-Toulouse à suivre sur RMC. Tout est prêt, d'après Didier Quillot, le directeur général de la Ligue de football professionnel, interrogé par Antoine Arlot. Écoutez. Didier Quillot arrive.
Nos arbitres sont formés depuis 18 mois. Ils ont arbitré des matchs en live, en Coupe de la Ligue et en Coupe de France. Donc, on va travailler sur l'information auprès du spectateur dans le stade, de façon à ce que la raison pour laquelle la VAR est intervenue et la sanction, entre guillemets, prononcée par la VAR apparaîtra à l'écran.
Voilà, donc ça, c'est pour dire que les arbitres, effectivement, sont prêts. Ouais. Et qu'on va aider un petit peu les spectateurs qui parfois se disent un petit peu perdus.
Parlant,
donc ça, la pédagogie, il y avait du boulot autour de cette arbitrage vidéo.
C'est pas définitif.
On verra ce que ça va donner sur la Ligue 1. Ouais. Juste aussi le mot de Gianni Infantino, qui est le président de la FIFA et sosie officiel de François Manardeau, bien sûr. La VAR ne change pas le football. Elle le rend plus honnête, c'était après la Coupe du Monde, elle rend le football plus honnête, plus transparent. Cela a bien fonctionné, nous avions lancé une phase pilote il y a 2 ans, et pour être honnête, j'étais sceptique. Mais je vais essayer de lire parce qu'il y a des gens qui nous écoutent.
Tu sais quoi? Et je ressens plus à Samy Traoré inversement que...
Ah ouais, quand même, regarde, ça fait un peu Fantomas, là.
C'est parce qu'il a pas la barbe. Avec la barbe, c'est François Manardeau, je vous assure.
Ouais, t'es
la VAR ne change pas le football, elle le rend plus honnête et plus transparent, cela a bien fonctionné. Nous avions lancé une phase pilote il y a 2 ans et pour être honnête, j'étais sceptique, mais nous avons pensé que si on ne faisait pas de test, on ne pouvait pas savoir si cela marchait ou non. Alors attention, est-ce que la VAR va changer les choses en Ligue 1? Est-ce que ça va aider les arbitres? Est-ce qu'il n'y aura plus de polémique? Plein de questions avant cette reprise de la Ligue 1 autour de la vidéo. Qui veut répondre?
Tu commences ou je commence?
Vas-y,
tiens, il veut parler en dernier, Samy.
Le contexte, d'après moi, c'est qu'on va commencer une expérimentation. On va commencer à vérifier si
cet outil, qui n'est qu'un outil, qu'on arrête de me dire ou de me faire croire que l'arbitrage vidéo va se substituer à l'arbitre central. Donc, le sujet, il sera toujours entre les mains de l'humain, entre guillemets, l'humain. Voilà, c'est l'arbitre central qui aura le dernier mot et le mot de la fin. Ça va être un outil. Moi, je fais souvent un parallèle quand j'en ai l'occasion entre l'arrivée de la police scientifique qui a permis à la police judiciaire de mieux faire son travail, de développer son travail. C'est un outil qui a permis à des gens dont le métier est de rendre la justice instantanément sur un match de foot, sur une rencontre, d'aller toujours aussi vite, mais d'aller un peu mieux. En tout cas, de réduire autant que faire se peut la marge d'erreur. Avec la vidéo, tu peux te tromper. Tu peux te tromper dans l'interprétation, tu peux te tromper même dans les faits, mais tu vas théoriquement, moins te tromper. Maintenant, qu'on arrête aussi de mettre sur le dos de la VAR tout le fléau, tous les maux du football moderne. Comme l'a dit le président de la FIFA, il fallait qu'on fasse un test pour voir si ça fonctionne ou pas.
Ah oui, donc le on fait test, un test en Coupe du Monde, mais bon, c'est pas grave.
Le test, il y a que la Coupe du Monde. Pour le président de la FIFA, il y a que la Coupe du Monde pour le faire, ce test.
Et de toute façon, quel est le meilleur moyen que de le faire pendant la Coupe du
D'accord,
Monde?
D'accord. Mais c'est plus ou moins concluant. Moi, perso, oui, je suis vidéo sceptique. Je demande encore à voir. Donc, qu'on arrête, enfin, faites ce que vous voulez, je m'en fous, mais de mon point de vue, c'est rien n'est définitif dans l'arrivée de la vidéo en France. Ça va pas nous prendre seulement une saison. Ne croyez pas qu'au bout d'une saison, on va se dire « Ah ouais, c'est formidable, la vidéo a réglé tous les problèmes !» Non. Mais si elle permet d'aider le corps arbitral qui est muet sur le sujet, pour des raisons, je pense, un petit peu politiques, c'est normal, ils ont pas trop le droit, vu qu'on l'adopte dans notre championnat, de dégommer, pour ceux qui n'y croient pas trop, de dégommer un outil qui est censé quand même les aider. Mais je peux vous dire, sans trahir de secret, que la grande majorité, l'immense majorité des F1 et F2, qui officient donc sur les deux championnats professionnels en France, se réjouissent, sont contents de l'arrivée de cet outil, parce que ça va leur permettre de leur faciliter un petit peu la tâche. Maintenant, et je l'ai dit dans un de mes avis, c'était la semaine passée, les arbitres qui sont pas les meilleurs, eh bien la VAR va servir un petit peu de révélateur, comme une espèce de sérum de vérité. Et ceux qui sont parmi nos arbitres les bons, voire les très bons, eh ben ils se serviront encore mieux de cet outil. Qui n'est qu'un outil, rien d'autre qu'un outil. Donc c'est un procès qui est parfaitement inutile si vous voulez le faire.
Ah, donc le débat est inutile.
Non, le procès.
Ah oui, d'accord. Non, mais il faudra effectivement voir à l'usure, mais on a quand même eu un exemple pendant la Coupe du Monde.
Si tu parles de l'usure, t'es déjà...
Moi, je suis un peu usé. Bon. À l'usage, lors de la Coupe du Monde, on a eu quand même cet exemple. Il y a eu, par exemple, beaucoup de pénaltys sifflés suite à l'arbitrage vidéo, notamment les mains dans la surface.
Oui.
Ça ne rendait pas spécialement la justice. Ou alors il faut changer cette règle des mains, mais parce que
pourquoi il faut changer la règle des mains
de... Parce qu'on peut avec le ralenti, on peut dire, les arbitres peuvent nous dire là il y a main, et un autre arbitre nous dira non, il n'y a pas main.
Donc la question de l'interprétation,
elle est toujours
vivace.
Moi, mon problème avec l'arbitrage vidéo, c'est que je pense qu'elle ne peut pas être utilisée pour interpréter une action. Elle ne peut être utilisée que dans des cas où on est sûr à 100%. Où elle ne donne la vérité qu'à 100%.
Ben justement.
Par exemple,
s'il y a
hors-jeu, et encore, il faudrait travailler bien les révélateurs qui parfois sont un peu douteux, etc. S'il y a un hors-jeu, si la faute est faite à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface, pourquoi pas, il n'y a pas matière à interprétation. En revanche, il y a matière à interprétation sur les fautes. Il y a matière à interprétation sur les fautes dans la surface.
Je t'ai perdu là.
Ben non.
Mais si, je t'ai perdu.
C'est-à-dire que pour moi, l'arbitrage vidéo ne devrait pas être utilisé, par exemple, pour les pénalties.
Je vais te dire pourquoi je t'ai perdu.
Mais parce qu'il y a trop d'interprétations.
Mais l'interprétation,
regarder l'image 1500 fois et un arbitre dira, il y a faute et l'autre arbitre.
Mais alors, c'est pas la VAR qui a vocation à réagir.
Voilà, on n'a pas besoin de la VAR alors dans ces cas-là.
Mais si tu en as besoin, parce que toi tu pars du postulat que les arbitres voient toutes les mains et qu'ensuite ils interprètent. Il y a des mains que les arbitres ne voient pas.
Le pénalty pour la France en finale de la Coupe du Monde.
Attends, Samy. Voilà, ce pénalty là, il ne la voit pas la main.
Ça va 2000 à l'heure.
Il n'y a pas d'interprétation. C'est quand on lui signale quelque chose à voir.
Même nous, on se pose la question, mais il y a main là, il y a pénalty.
C'est quand on lui signale.
Il y a pénalty à 100% sur la main du croix.
Bien sûr qu'il y a. On va pas jouer les faux culs.
Bien sûr qu'il y a pénalty.
Pour toi, il y a pénalty. Pour moi, ça se discute. Pour Duga. Mais là où tu trompes nos téléspectateurs.
Non, je suis pas là pour tromper les téléspectateurs.
Attends, c'est que
moi, je suis comme toi, je suis vidéosceptique.
Tu dis, quand il y a une interprétation, c'est là où vient le problème. Mais non, il y a des cas où l'arbitre ne le voit pas. Et c'est quand il ne le voit pas que le VAR lui dit, il faudrait que tu regardes.
Je regarde justement.
Et quand il regarde le gars devant son écran, qu'est-ce qu'il fait? Il interprète ce qu'il voit, à vitesse réelle de préférence. Il interprète. Donc toi, tu nous dis...
Non,
il voit toutes les mains.
Parce que je suis pas d'accord
avec
toi.
Il les interprète de manière différente.
Il y a des cas où l'arbitre a vu quelque chose, il a décidé de ne pas le siffler parce qu'il a estimé, il l'a vu, il était quand même devant l'action.
Il a dit au VAR.
Il a dit au VAR.
Il a estimé qu'il n'y avait pas faute dans la surface, par exemple.
Oui.
Sauf que l'arbitre vidéo lui dit, attends. Va voir quand même la vidéo parce qu'il s'est passé quelque chose.
Des fois il y va.
Parfois il y va, il change d'avis.
Je suis pas sûr.
Alors qu'il a vu à vitesse réelle quelque chose.
Après, c'est son interprétation à lui, une nouvelle fois.
Donc toi, en tant qu'ancien joueur, d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir ton avis.
Bien sûr.
Tu aurais aimé avoir la vidéo à ton époque.
Tu peux pas savoir comment ça fait mal, mais extrêmement mal.
De te faire carotte.
De perdre sur une faute d'arbitrage.
D'interprétation.
Mais il y a des fautes d'arbitrage pas d'interprétation. Il y a des réelles fautes d'arbitrage qui t'amènent à ta perte de match.
Oui.
Moi, en tant que joueur, en 10 ans de carrière, monsieur, vous imaginez bien qu'il y a eu des arbitres qui nous ont enflés quand même, non? Je suis désolé.
Bon, okay.
Même si nous, on est difficile sur un terrain, ils font des fautes.
Oui. Mais c'est ce que tu veux dire.
Oui, mais l'erreur est humaine, encore une fois, mais bon.
Non, mais attends, mais laisse.
Oh là,
attends,
j'écoute Samy.
Mais non,
mais je te laisse finir.
Quand tu te fais carotte, ça fait très mal. T'es acteur, évidemment.
Bien sûr, je veux en venir où? Au principe où? Ces erreurs-là, elles peuvent être gommées, mais c'est magnifique. L'arbitre voit une main.
C'est magnifique dans les deux sens,
Dans les deux sens, ouais. Ah ouais.
Quand toi, tu fais la faute et que tu te fais, découvrir.
Là, maintenant, il y a la VAR qui peut te remonter. Avant, il n'y avait pas la VAR qui pouvait te remonter sur ton erreur. Maintenant, il y a la VAR. C'est comme avant. Avant, sur un terrain, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Nous, en tant que défenseurs, on pouvait être agressifs, méchants, mettre des petits coups de poing dans le dos.
Et puis aussi,
maintenant, tu peux plus rien faire.
Tu parles de ça, c'est intéressant. Les pénalties et les tirages de maillot dans la surface. Combien de tirages de maillot on a vu dans la surface?
C'est une nouvelle fois encore l'appréciation de l'arbitre.
Certains n'ont pas été sifflés.
Voilà, c'est encore une nouvelle fois les arbitres.
Comment on peut se dire, un arbitre. Non mais pensez aussi aux supporters. Ils vont voir un match la veille, ils vont se dire l'arbitre a sifflé là cette faute dans la surface.
Mais c'est l'arbitre
qui prend
sa décision.
Même faute dans la surface, c'est-à-dire Saint-Ouvrage par exemple, le lendemain.
L'arbitre ne sifflera pas. C'est l'arbitre qui a décidé.
C'est l'interprétation qui prend.
C'est l'arbitre qui décide
parce qu'il n'aura pas utilisé cette fois la vidéo.
Mais l'autre l'aura utilisé. Décidé que donc il décide qu'il a à disposition.
Bon bah donc il y aura encore plein de polémiques.
Mais évidemment,
c'est sûr.
Attends, tu as cité les supporters. Quand tu vas, quand tu es jugé dans une affaire, tu es soit prévenu, soit victime. Quand le juge rend son verdict, tu vas avoir dans le camp de la victime des gens qui vont encore crier à l'injustice et qui vont faire du coup appel, ce qui n'existe pas dans le sport. Enfin, si, ça existe dans le sport quand tu dépasses le cadre
de sanctions,
on commence à faire appel, on n'a pas fini les matchs.
Qui vont dire, justice est rendue. Ça existera toujours et ça fera toujours polémique.
Je ne suis pas anti-vidéo, attention, et je ne demande qu'à être convaincu, notamment lors de la saison.
Mais la Coupe du Monde, t'as pas convaincu quand même, un petit peu quand même, non?
Pas totalement.
On peut parler de carton rouge à cette Coupe du Monde.
Je vais te dire pourquoi, mais d'abord, on va écouter les acteurs de Ligue 1 qui seront quand même les premiers concernés. Et je vous propose d'écouter Sabri Lamouchi, l'entraîneur du Stade Rennais, qui n'était pas convaincu par la vidéo, mais qui finalement se laisse convaincre avant donc de la découvrir avec son club du Stade Rennais. Écoutez.
Il faut être derrière cette nouvelle technologie qui va, entre guillemets, équilibrer les choses et commettre moins d'erreurs. Mais des erreurs, il y en aura. Donc il faut juste s'adapter, évoluer avec son temps. Et on est content que la VAR soit présente sur les terrains de Ligue 1.
Voilà, les acteurs sont pour, donc ça veut dire que c'est pas une mauvaise solution. Là, je suis d'accord avec vous. On entendra dans un instant aussi le gardien de Toulouse, le nouveau gardien de Toulouse, Baptiste René. Mais on va prendre au 32-16 Aboubakar, qui est avec nous dans l'after. Salut Aboubakar.
Bonsoir à tous.
Salut. Bonsoir.
Alors à 23h15, on parle évidemment de l'assistance vidéo sur l'arbitrage, dans l'arbitrage pour la Ligue 1. Pour toi, la Coupe du Monde a montré que ça pouvait fonctionner.
Ah, ça a été le meilleur partenaire de l'équipe de France.
Ah oui, oui, ça c'est pas faux. Ouais.
Ça d'accord.
Voilà, ça c'est pas faux.
Mais c'est pas vraiment la question.
C'est un clin d'œil de l'histoire, ça. Hein.
Voilà. Non,
parce qu'en 2006, il n'y a pas la VAR, mais ça se passe dans le sens.
D'accord.
On a tous profité, donc il faut aller dans la prolongation de ce qui s'est passé en Coupe du Monde. En revanche, moi je suis satisfait de ce qui pourrait se passer. Mais attention au jeu haché à la NBA avec tous les joueurs de... Il risque de réclamer des choses que l'arbitre n'aurait pas vues en tapant de la main, etc. Et maintenant, comme j'expliquais en antenne, ça, on va s'adapter. On est une génération de perfectionnisme, si je peux me permettre de dire ça, visuel. Et il faut que rien ne dépasse. Donc les simulateurs, bah, ils vont un petit peu moins simuler. Et je pense que on n'aura plus les fameuses conversations d'après match en disant bah, l'arbitre on nous a comme avait expliqué Samy ou d'autres joueurs. Donc ça va être intéressant. Je pense que cette année ça va être une belle transition. D'ici 2-3 ans, on va dire que comme une paire de chaussures, l'arbitre s'adaptera et il sifflera à bon escient.
Et les spectateurs seront adaptés avec lui, vous verrez. Mais c'est un sujet dans peut-être pas 2-3 ans, mais dans 5-7 ans, allez, tous ceux qui étaient farouchement opposés, et il y en a aussi dans notre émission, hein, pas des moindres.
Daniel Riolo.
Ce sera un sujet d'arrière-garde.
On verra. Bien sûr qu'on verra.
Non, d'abord, deux précisions. D'abord, toutes les fédérations et les confédérations font ce qu'elles veulent. Ce n'est pas parce que la FIFA l'applique que les autres sont
obligés. En Angleterre, ils le font pas. Même d'ailleurs, les présidents de clubs.
De toute façon, ils font rien comme les autres.
Mais les présidents de clubs ont refusé. Ils ont voté, ils sont contre l'installation de l'équipe.
Il n'y aura pas en arrière, en revanche.
Merci à Babacar. On va continuer, évidemment. Merci beaucoup d'être passé dans la sphère.
Merci, toi aussi.
Merci beaucoup. 23h17, on continue de parler de ça avec, tiens, on va écouter Baptiste René. Je vous propose d'écouter le gardien de Toulouse. Voilà, un acteur qui est lui aussi pro-vidéo.
Moi je suis pour, j'ai toujours dit que j'étais pour la vidéo parce que je déteste l'injustice. On l'a vu pendant la Coupe du Monde que bah, ça nous a bien servi en tant que Français. Et c'est quelque chose dont les arbitres ont besoin. Au rugby ils l'ont adopté, au tennis ils l'ont, donc au foot c'est normal qu'elle soit adoptée aussi. Donc c'est une bonne chose pour la Ligue.
Bon, il y a unanimité. C'est vrai que moi, si je suis contre la vidéo, c'est pas grave. Mais eux, c'est plus important quand même qu'ils donnent leur avis sur cette vidéo.
Non, mais
c'est eux qui vont la vivre au quotidien.
Le supporter, évidemment, au niveau de l'émotion. Et Babacar disait un truc très juste quand même sur le jeu un peu haché. C'est moi, mon scepticisme, il est encore là. C'est-à-dire qu'il faut que le protocole soit un peu plus rapide. Déjà, j'étais agréablement surpris dans la Coupe du Monde.
C'était pas mal à la Coupe du Monde.
C'était pas mal.
Il y avait même une petite tension. Vous voyez, au moment où il y avait justement
l'attente, c'est vrai que
ça crée une petite tension. Moi, je pensais que ça allait être une catastrophe. Et
au niveau de la tension et de l'émotion, il y a l'image d'Allemagne Corée du Sud à la toute fin de match où tous les Coréens sont regroupés devant, enfin derrière le dos de l'arbitre qui consulte la VAR, et quand il siffle le fait qu'il est but, hein, si ma mémoire est bonne, on les voit tous sauter de joie et aller vers leur banc. Ça crée une nouvelle émotion, ouais. Avec une nouvelle image.
Regardez, si vous êtes sur BFM Sport, vous voyez ces chiffres, mais je vais vous les donner. Pendant la Coupe du Monde, il y a eu un premier tour avec 48 matchs, 17 interruptions de jeu par les arbitres. Et les vérifications étaient en moyenne 7 fois par match, mais pas toujours d'interruption. Donc nous, ce qu'on a vu à la télé, c'est 17 interruptions sur 48 matchs. Et la phase finale, donc à partir des 8e, 16 matchs, seulement 3 interruptions. Comme s'il y avait eu quand même, au moment où ils ont fait le bilan après le premier tour, ils ont remarqué quand même que les arbitres avaient peut-être abusé un petit peu de la vidéo. Mmh, et ça, il faudrait pas que ça arrive en Ligue 1.
Peut-être
vous voyez.
Que le VAR, oui, exactement. Peut-être qu'il y a
un abus d'utilisation de la vidéo.
C'est ça.
Ben, tout à l'heure, ils disaient quoi? Ils ont formé les arbitres, justement, quand ils ont formé les arbitres, c'est pour ça aussi.
Oui. Mais pour se rassurer, peut-être que les arbitres de centre vont demander la vidéo un peu de façon intempestive.
Il fallait pas.
Les arbitres vidéo vont peut-être trop intervenir aussi. Ouais. Il faut quand même trouver le bon équilibre.
Et c'est une immense difficulté parce que c'est une nouvelle technologie. Une nouvelle technologie, elle a pas vocation à être efficace de à 100% suite. Tout de suite. Ouais. Ça n'existe pas. Sinon, on vous vend du rêve ou du mensonge ou les deux. Mais il y a eu, je pense, oui, un distinguo entre, et ces chiffres sont intéressants, entre cette première phase où, entre le VAR et le central, il se refilait un petit peu la patate chaude. Viens voir, viens un truc à te montrer, tiens, je voudrais consulter quelque chose.
Non, mais c'était
et
puis, parfois la, n'importe quoi, honnêtement.
La deuxième partie de la Coupe du Monde, où là, on a été un peu plus à l'économie. Et on a remis l'église un peu au milieu du village avec le central qui
et
avait
c'est marrant parce que
une autorité y a eu, plus importante par rapport au VAR.
Il y a eu moins de débats sur la deuxième phase alors qu'on a peu utilisé la vidéo mais que lors de la première, la phase de groupe où par exemple les Marocains ont trouvé que c'était scandaleux l'utilisation qui n'a pas été faite.
Mais
ça n'a pas été fait pour eux de la vidéo alors
parce
que ça aurait pu dans certains cas.
Encore une nouvelle fois, l'appréciation de l'arbitre.
Ouais, c'est bon. Contre eux. Quand le joueur marocain.
Quand ça va pas, quand dit, ça va pas.
Oui, mais à la place de ces joueurs-là, donc ils vont continuer à dire.
J'ai été à la place de ces joueurs-là. Oui. Je sais que
t'aurais dit la même chose. Et
je t'aurais dit la vidéo c'est nul.
T'aurais dit la vidéo c'est nul parce qu'on l'utilise pas à bon escient.
Ouais, et une fois après ça m'aura arrangé, j'aurais dit ah ouais c'est bien en fait.
Ben voilà.
Quand ça va dans ton sens, t'es content. Mais quand ça va pas dans ton sens, c'est toujours un chien. C'est comme ça.
Il y a un dernier thème quand même. Bon, on va aller voir Ludovic au 32-16. Et après, je vous parlerai de mon thème pour essayer de vous convaincre. Ludovic est avec nous. Salut Ludovic.
Salut Ludo.
Oui,
salut,
bonsoir. Bonsoir.
Alors, Ludovic, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'utilisation de la vidéo qui va donc arriver, on le répète, en Ligue 1 cette saison?
Eh ben, l'utilisation de la vidéo, au départ, ça fait quelques années qu'on en parle, mais on a d'abord pensé pour les pros vidéo, l'argument qu'ils avançaient, c'était que il y aura en fait plus d'erreurs, il y aura plus de débats en fait sur l'arbitrage. Et on est d'accord tous ensemble.
C'est un mauvais argument.
On s'est rendu compte au moins que ça a permis de mettre en avant que c'était faux.
Ouais.
Et effectivement, on l'a vu avec la Coupe du Monde. Là, on a juste déplacé le débat sur d'autres actions. Et le deuxième argument que les pros vidéo ont eu, du coup, c'est qu'il y aurait eu éventuellement moins d'erreurs. Et là-dessus, la FIFA, ils ont apporté une réponse. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, ils ont sorti le chiffre, je crois, 97% de bonnes décisions avec l'utilisation de la VAR.
Bon, après, la FIFA, elle fait ses chiffres aussi, ouais. Et ça tambouille, hein. C'est quand même elle qui décide de mettre la vidéo, hein.
Et ouais. Mais bon, on a eu des études de la FIFA avant sur les 5 grands championnats, et on avait du 92-93% de bonnes décisions. Donc, on a quand même un chiffre, même si c'était que 48 matchs sur la Coupe du Monde. La FIFA, ça augmente de 3-4%, enfin, ça diminue le taux d'erreur de 3-4%.
Oui, voilà, c'est très important ce que tu dis, Ludovic, hein, parce que quand tu dis 92, les gens vont croire qu'avant on était à 50. Non. Déjà, on est sur des taux de réussite dans les prises de décision des arbitres sans la vidéo, dans le football moderne, qui sont très, très, très élevés. Évidemment, nous, les médias, comme les spectateurs, on pointe du doigt les erreurs, qui sont rares, mais qui se voient, évidemment.
Non, mais après, c'est vrai qu'il y a eu une certaine hypocrisie, et là, on est tous un petit peu responsables. On accusait les arbitres, on disait que les arbitres français étaient nuls, en pointant du doigt leurs erreurs, alors que eux-mêmes ne voyaient pas les ralentis. Et là, aujourd'hui, effectivement, on se dit, certains disent, il faut pas les aider, alors qu'il faut peut-être
un certain
peu
moment, ils étaient pas
bons
non plus.
Mais si je peux juste terminer, là où il y a débat réellement sur la vidéo, c'est est-ce que c'est 3-4% d'erreurs en moins? Est-ce que ça vaut le coup pour les 3 minutes de jeu en moins? Pour l'émotion qu'il y a plus sur les actions, qu'on regardait la vidéo, etc. Et c'est là que va y avoir, je pense, débat sur les quelques années à avoir, parce que 48 matchs de Coupe du Monde, c'est pas suffisant pour faire des stats. Et d'ici 3, 4, 5 ans, on pourra analyser réellement si les 3 minutes de jeu en moins, les retours sur vidéo, etc., est-ce que ça tue pas un petit peu le football? Est-ce que c'est pas mieux sans la vidéo?
Ouais, parce que là,
aujourd'hui, on peut pas le voir.
Non, parce que là, tu parles du côté spectateur.
Tout à fait.
Ouais. Après, quand t'es sur le terrain, excuse-moi de tes 3 minutes, on s'en fout un peu du moment que je me suis pas fait enfler. Hein.
Oui, mais en même temps, Samy.
Bah, 3 minutes, c'est peut-être un but.
Je comprends.
Ça ne se méprise pas non plus le côté spectateur.
Non, c'est pas que ça se méprise.
Les deux sont importants.
Les deux sont importants, ça c'est sûr. Mais quand t'es au cœur du jeu et tu perds sur des fautes comme ça, c'est vraiment dur. Je te parle même pas d'une finale de Coupe du Monde. Parce que sinon, comment tu t'en remets,
Samy?
Le football, à ce niveau-là, et la vidéo, c'est une question d'argent. Et aujourd'hui, on va étudier la question d'argent. Et là-dedans, il y a aussi le public qui entre en jeu, l'émotion, etc. C'est pas juste améliorer le football, parce que la vidéo, elle sera pas en district.
Quelle question d'argent, pardon?
Et en ligue et tout ce qu'on veut.
Ça n'a rien à voir. Le mec qui aime le football, il aimera le football, qu'il y ait de l'argent ou pas d'argent. Il y a des clubs qui n'ont pas d'argent, ils ont beaucoup de supporters. Après.
Très clairement, si la vidéo, dans 2-3 ans, se rend compte qu'elle tue l'émotion, qu'elle tue l'audience du foot, évidemment que la question
d'argent va pas
en jeu. Non, elle peut pas. C'est d'autres émotions, justement. Regarde la Coupe du Monde.
Ça va être d'autres émotions, justement.
Je pris l'exemple d'Allemagne, Corée du Sud. C'est une nouvelle image. C'est une autre émotion.
Il va falloir s'habituer.
Regarde la finale.
Exactement.
Regarde encore une nouvelle fois la finale de la Coupe du Monde. T'étais pas en haleine d'attendre la décision de l'arbitre pour savoir qui siffle pénalty?
Bah, c'est vrai qu'après, tu sautes de joie quand tu vois qui siffle pénalty, effectivement.
Moi, j'étais pas né, hein, mais la Coupe du Monde dans les années 70 que l'Angleterre gagne à cause d'une histoire de but qui passait
66.
La nuit ou pas.
Ouais, en 66,
il y avait la vidéo
ouais.
ou pas, mais c'est rentré dans l'histoire, le fait qu'il y ait une erreur d'arbitrage. Oui. Il y a eu de l'émotion. Ce qui
ah, bah, c'est mais demande aux Anglais s'ils se sont encore relevés, les pauvres.
Ah non, ils ont gagné. Non,
les Allemands.
Ah, c'est
les Allemands.
C'est les Allemands.
Non, non, je
la main de Maradona.
La main de Maradona,
bien sûr. La main de Maradona aussi, ça rentre dans l'histoire du football.
Oui, mais la main, la main croate contre nous, la main de Perisic, elle rentre dans l'histoire aussi.
Bon. Merci Ludovic, merci beaucoup. C'est un débat sans fin.
Sur l'émotion, oui, c'est sans fin.
J'aimerais beaucoup lire tous vos messages. Oui. Vous êtes très nombreux sur le hashtag RMC Live, mais je peux pas, j'ai pas le temps malheureusement. Donc je vais en lire seulement un sur le Direct Studio sur l'appli avec cette proposition de Kevin qui dit moi je suis pour la vidéo, mais si la vidéo est demandée par l'entraîneur d'une des deux équipes et pas par un inconnu dans une pièce inconnue.
C'est une piste.
Voilà. Pourquoi pas donner la possibilité à l'entraîneur de
comme dans certains sports
d'avoir fois un joker par exemple.
Un joker par exemple.
C'est une piste.
Au tennis, où c'est le joueur
américain aussi, c'est une piste qui mériterait d'être étudiée, je crois.
Bon, on pourrait en parler des heures, 23h26 sur RMC, malheureusement on n'a pas tout le temps, il nous reste une demi-heure dans l'after, restez bien avec nous.
Dommage.
Puisque dans un instant, on va parler de ces joueurs qui font grève, qui partent au bras de fer pour peut-être quitter leur club. C'est le cas de Thibaut Courtois, on en parle avec vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live bien sûr, et sur l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite dans l'after.
RMC, le super football show, l'afterfoot, François Pinet.
23h27, on continue le débat avec François Renardo et Samy Traoré. C'est un débat sans fin sur la vidéo. Évidemment, François qui nous racontait d'ailleurs comment il avait réagi suite à la main de Thierry Henry. Il n'y avait pas la vidéo à l'époque contre l'Irlande.
Tant mieux, encore une nouvelle fois.
Samy, puisque tu étais dans le groupe,
bien sûr, tu étais. Moi, j'ai pas été joueur, mais j'ai fait 20 ans que je suis dans le foot. J'ai passé les trois quarts de ma carrière côté acteur et pas côté comme ici spectateur. Je peux te dire que quand l'Irlande on les élimine de la Coupe du Monde grâce au but de William Gallas, mais sur une main très controversée de Thierry Henry. Je peux dire que quand t'es acteur de ça, tu te dis mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Ouais. Parce que ça penche en ta faveur.
Vous auriez peut-être dû avoir l'aide de la vidéo pour ne pas aller à Naïsna en même temps. Ça aurait peut-être été
c'est notre histoire encore. Ça.
Avec la vidéo, on n'aurait pas eu tout ça.
Et ben écoute, je vais.
Et tu serais peut-être toujours avec l'équipe de France.
Je vais sagement méditer.
Toujours avec Raymond Domenech.
Non, lui non, mais sagement méditer tes paroles, François Pinet, elles sont marquées du sceau du bon sens.
Bon, dans un instant, le quiz de l'after.
Frappé du sceau du
bon
sens.
Pour jouer avec François et Samy, vous appelez le 32-16 évidemment. Est-ce que vous avez remarqué que plusieurs joueurs ont décidé de boycotter l'entraînement ou la reprise de leur club? Alors c'est souvent le cas lors des périodes de mercato. C'est le cas. Pas avec n'importe qui cette saison, puisque Thibaut Courtois a séché l'entraînement pour la deuxième fois de suite cette semaine.
Il est très inspiré, lui, depuis qu'on a éliminé la Belgique.
Voilà, il a le seum, comme on dit. Ça passe pas. Ça passe toujours pas, j'ai l'impression.
Dans la bouche de François Pinet, il a le seum.
J'aime bien. Tu m'y attendais pas, celle-là.
Oui, il a le seum.
Pourquoi je peux pas utiliser des mots de jeune, c'est ça?
Si, bah, t'es jeune, de toute façon.
Ah ouais, attends, on dirait pas comme ça, mais je suis jeune. Thibaut Courtois qui a donc séché l'entraînement.
Attention, la calvitie, elle arrive aussi.
Il va rentrer
dans notre club.
Venant de vous, je prends bien venant de vous.
Moi, ça.
Mais non, mais je suis bien, je suis
la
content.
La toupette, là. Sur mes inventions,
profite.
Ma table préfère, et j'en profite.
Profite.
Je les appelle chacun par leur prénom.
T'as raison,
ils ont chacun un petit nom et je les garde précieusement.
Tant que t'en as la vie dans les cheveux, garde-les.
Je te promets, si madame te voit comme un œuf, elle va adorer. Si elle t'aime, de toute façon, elle
va adorer.
Je sais pas, parce qu'elle dit tu vas ressembler à François Manardo, surtout pas.
Oh, ça va, moi, madame même aussi, hein, comme ça. Hein.
Oui. Alors bon, je parlais de Thibaut Courtois, qui a séché l'entraînement pour la deuxième fois de suite cette semaine à Chelsea. Il souhaite aller au Real Madrid, il a décidé de partir au bras de fer. Autre cas, et c'est marrant parce que c'est à l'inverse, c'est Matteo Kovacic qui, lui, joue avec le Real Madrid, qui a refusé de s'entraîner avec le Real, alors qu'il était attendu aussi, pour partir à Chelsea. Et alors un autre cas, Jordan Ayew, qui ne veut pas aller en deuxième division avec Swansea. Du coup, lui, il a décidé de refuser de s'entraîner avec son club de Swansea et lui aussi est parti au bras de fer. Juste avant d'en parler, Samy, toi, t'as connu peut-être des coéquipiers, peut-être que toi-même, t'as fait ça, la grève de l'entraînement pour partir d'un club. Ah, tu l'as fait?
Quand t'as séché?
Ah ouais?
Ah, mais tu nous avais pas dit que c'était pas trop mal passé.
Raconte-nous, les gens attendent de savoir qu'est-ce qui s'est passé.
En fait, comme ils ont su que c'était Paris qui était demandeur, ils ont voulu monter le transfert.
Monter les prix du transfert, c'est ça.
Et j'étais pas d'accord.
Toi, tu voulais aller à Paris?
Ah ouais, non, j'avais donné mon accord avec Paris, donc c'était définitif. Une fois que j'avais donné mon accord, je les ai prévenus. Ils ont voulu monter, bon, comme ils ont vu qu'il y avait plus moyen de faire marche arrière.
Ils ont dit à Paris, c'est plus cher.
Ils ont dit à Paris, c'est plus cher. J'ai dit, bon, si vous partez de ce principe-là, ben, moi, je vais pas venir à l'entraînement.
Ah, d'accord. Et t'as séché combien de jours
à la reprise, je suis pas venu. J'ai eu les deux premiers jours, pareil, je suis pas venu les deux premiers jours. Après, ça commence article dans le Nice Matin, article dans tous les journaux. Donc, c'est pas une bonne image. Après, il y a Fred Antonetti, l'entraîneur, c'était mon entraîneur à l'époque, qui m'a appelé. Il m'a dit, écoute, quoi qu'il en soit, puisque t'as pris ta décision et tu veux partir, attends que les choses se fassent un peu calmement, les agents vont se mettre en place, puis...
Et ça s'est fait combien de temps après, le transfert à Paris?
Après, c'est vrai, une dizaine de jours après, peut-être.
Ah oui, donc très vite, ça a accéléré, peut-être les choses.
Est-ce que tu regrettes pas d'avoir boycotté deux
jours? Si, non, mais après, moi, c'était mon premier gros bras de fer pour partir. Après, comme Fred a dit, si le coach m'a convaincu au bout de 10 minutes d'appel, il m'a dit, écoute, c'est pour toi premièrement, c'est pour ton image. Si Paris te veut, eh ben, tu seras compétitif direct puisque tu auras repris les entraînements avec nous. Et puis voilà, et puis tout le monde t'aime ici, donc t'es le bienvenu.
Est-ce que tu te sentais, comme certains joueurs peut-être, alors le mot est fort, attention, hein, pris en otage
non,
un peu par ton club.
Non, mais c'est le mot que j'ai utilisé plusieurs fois et que certains entraîneurs, ouais. C'est des prises d'otage.
Ah oui,
c'est comme Paul Le Guen, à un moment, je suis au Paris Saint-Germain, il me dit quoi? Il me dit, à l'arrivée de Paul Le Guen, j'ai pas été pris dans le groupe dès sa prise de fonction. Le week-end d'avant, je jouais. Derrière, je jouais plus. Ouais. Dès sa prise de fonction, le lundi, le samedi, pas dans le groupe.
Sans explication.
Sans explication. Ouais. Le samedi, pas dans le groupe. Après, c'était un match cumulé le samedi et le mardi ou le mercredi. Et on allait à l'OM. Pas dans le groupe le samedi, donc forcément pas dans le groupe pour le mercredi. Ouais. Donc ça faisait trois fois que je suis pas dans le groupe sans explication. J'étais tapé à la porte. J'ai dit, excusez-moi, il y a un problème avec moi. Faut m'expliquer. Vous venez d'arriver, je suis pas dans le groupe, alors que je jouais la semaine d'avant. Non, bon, après toute explication, bon, pour moi, il y a le meilleur que toi à ton poste, la concurrence, il faudra me montrer que, ouais, aucun problème.
Non, mais
donc j'essaie de montrer un petit peu. Je vois qu'au bout d'une semaine, les dés sont pipés réellement. Et je sais qu'Auxerre me veut en prêt.
Ouais.
Donc je tape dans le bureau, je dis, Auxerre me veut en prêt, il faut me laisser partir. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, non, moi j'aurai besoin de toi dans la saison, il faut que tu restes avec nous. Je lui dis, mais j'ai aucune certitude de pouvoir jouer, vous voulez pas que je parte et avoir du temps de jeu à Auxerre? C'est une prise d'otage.
D'accord. Donc tu peux comprendre quand même si toi tu regrettes à l'époque de l'avoir fait, tu peux comprendre les joueurs comme Thibaut Courtois tu comprends pas les autres joueurs.
Non, moi c'est des joueurs avec plus d'expérience que moi, avec une plus grosse image que la mienne, dans des plus gros clubs. Ils ont joué des Coupes du Monde. Je pense qu'au bout d'un moment, le dialogue va faire que les choses vont apaiser ça. Ne montre pas une mauvaise image de toi, alors qu'on a toujours une bonne image de toi. Après cette Coupe du Monde, bon, tu t'es manqué un peu certaines déclarations vis-à-vis de la France, mais sinon on a toujours une bonne image de toi. Ne montre pas le mauvais côté. Sois toujours propre envers ton club qui te paye toujours.
Mais voilà. Tu t'es entraîné avec le PSG.
Ah non, tu peux. Non.
Non, mais attends, tu jouais plus, mais tu continuais à t'entraîner avec le PSG. T'as dit que tu t'étais arrêté 48 heures de t'entraîner avec Nice, mais avec Paris.
Non, c'est deux choses différentes, parce que je parlais de la prise d'otage. Je parlais quand
tu es pris d'otage et le boycott de l'entraînement.
Non, mais c'est pas totalement différent. C'est-à-dire comment on ressent.
Le boycott de l'entraînement Voilà. La prise d'otage peut amener au boycott de l'entraînement.
C'est pas totalement différent. C'est-à-dire, si on veut parler de ces joueurs-là, de ces joueurs qui boycottent les entraînements pour partir dans un autre club qui veulent mettre le bras de fer, faut aussi dire que parfois, c'est les coachs, effectivement, c'est les entraîneurs qui, par exemple, pour un joueur qui refuse de prolonger, ça arrive aussi.
Mmh,
et ben, hop, ils le mettent en tribune ou sur le banc. En tout cas, ils lui font comprendre qu'il faut absolument qu'il prolonge, sinon
le petit de Lyon là, on lui a dit va régler ton problème avant de venir.
Donc il y a quand même aussi, il faut pas non plus taper toujours sur les joueurs qui prennent ces décisions là, qui sont sans doute moins bien.
Non, mais ces décisions là qu'ils prennent, c'est l'extrême. Ça veut dire que là, c'est ton plaisir d'aller jouer au foot.
La question qu'on pose, est-ce que ce ne sont pas visiblement des salariés comme les autres? Parce que si toi demain, François, tu viens pas au travail pendant deux jours,
ça n'a rien à voir.
Pendant deux jours, t'es au revoir monsieur et c'est terminé.
Ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose.
Ils peuvent se permettre de ne pas être là pendant deux jours à l'entraînement.
Oui, mais par rapport à la remarque de Samy sur l'image et sur le sujet là, est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort d'aller au bras de fer? C'est l'idée la plus con, professionnellement parlant, qu'un joueur puisse avoir avec son employeur. Pour une bonne et simple raison, et Samy l'a dit avec ses mots, c'est que moi, si je suis intéressé par Thibaut Courtois et que je m'aperçois qu'il est en train de faire ça, moi je suis le président ou le directeur sportif, je me dis mais ça il va peut-être me le faire dans 2-3 ans. C'est-à-dire que tu renvoies l'image d'un cassos qui est capable de foutre la merde, alors que le mec pro, il peut aller au duel, il peut aller à l'affrontement avec ses dirigeants, mais professionnellement parlant, pour lui-même, il s'entraîne, il se maintient en condition, il joue le jeu, pour lui-même, puisque le club lui met à disposition les infrastructures, qu'il en profite, et que ses agents ou lui, ses agents de préférence, règlent le problème en coulisses.
Voilà.
Mais ne pas aller s'entraîner seul ou sur le conseil d'un crétin d'agent qui te dit ben
Regarde, tu refuses d'aller à ton entraînement,
ça c'est perdant.
Bah c'est perdant. En même temps, souvent les joueurs qui partent au bras de fer, ils ont gain de cause. C'est-à-dire que là, Thibaut Courtois, il va peut-être partir au Real Madrid, donc il aura eu raison finalement de ses dirigeants en boycottant les entraînements. Il a précipité les choses, puisque visiblement le Chelsea cherche un remplaçant là.
Tant mieux pour lui, mais je pense que Florentino Pérez, ça lui aura pas échappé que peut-être après le Real, enfin il y a quelques clubs auxquels peut prétendre évidemment Thibaut Courtois. La question c'est pas est-ce que Thibaut Courtois par rapport au club où il peut jouer a raison de le faire. C'est les joueurs pro en général s'ils le font avec l'exemple de Courtois, est-ce que c'est bien de le faire? Non, évidemment non. Et même si il a finalement son contrat des centaines de milliers d'euros par mois au Real, je pense qu'on aura retenu que il s'est comporté comme un malpropre avec son employeur. Si tu vas au fight,
quoi qu'il en soit.
Pardon, je vais utiliser cette expression un peu triviale. Tu fais pas caca sur la table, voilà.
Quoi qu'il en soit,
c'est trivial ça. Attention.
Quoi qu'il en soit, où t'es passé, où t'as travaillé pendant X années, faut toujours essayer de laisser une bonne image de toi. Il y a des gens qui vont retenir justement que cette dernière image de toi, la mauvaise.
Ouais. Bon, en plus, il part, mais ça, c'est juste pour l'anecdote, il part au Real Madrid, qui est lui qui a joué à l'Atlético Madrid. Il va peut-être pas être accueilli, en tout cas, pour les derbys madrilènes de la meilleure des façons. Benita est au 32-16 à 23h38 dans l'after. Salut Benita.
Salut, bonjour à tous.
Tous les soirs, t'es avec nous, hein.
Salut Benita.
Ouais,
c'est
moi,
bien, c'est sympa, t'es fidèle. T'es pas en vacances?
Non.
Ben voilà, donc tu peux nous écouter. Qu'est-ce que tu penses toi, de ces joueurs comme Thibaut Courtois qui partent au bras de fer, qui refusent de s'entraîner pour signifier à leur club qu'ils veulent absolument s'en aller?
Moi, je pense que c'est mauvais pour leur carrière, c'est mauvais pour leur plan de jeu, c'est mauvais pour la suite des événements, parce qu'on est dans un monde aussi aujourd'hui où tout est regardé, tout est critiqué. Même quand tu fais des choses bien, tu peux être critiqué des fois.
Mais t'es critiqué quand tu fais des choses bien de toute façon aussi.
Donc je pense qu'il faut essayer de se taire. Faire un petit peu du Mbappé Project, c'est-à-dire que tu fais les choses, tu es humble, tu parles pas, tu t'attends que ton heure elle vienne, pour que le jour où tu veux vraiment faire quelque chose, on t'écoute directement, sans avoir... Vous savez, les personnes qui parlent pas beaucoup quand elles ont un souhait, ça c'est très humain, c'est très... On se préoccupe même pas de savoir si c'est bien ou pas, on veut directement faire plaisir, entre guillemets, à la personne. Là, je parle dans la vie en général. Et je pense que dans le foot, c'est comme ça. Enfin, au bout d'un moment, comme t'as dit, je sais plus quel intervenant, faut toujours laisser une bonne image de
c'est Samy qui disait ça.
Samy, faut toujours laisser une bonne image d'où tu pars. Donc, je pense qu'un bras de fer, c'est inutile. Discuter, dire que oui, j'ai été au bout, parce que Thibaut Courtois, par rapport à Chelsea, il a fait un bon parcours. Il a été, ça fait longtemps qu'il l'a, c'est pas n'importe qui. Il y a même des rappeurs qui reprennent des musiques pour Thibaut Courtois, Chai, par exemple.
je la connais pas, celle-là.
Mais c'est vraiment quelque chose de bien. Donc, il vient, il dit, moi, je m'appelle Thibaut Courtois, ça c'est, je sais pas, X temps que je suis là, j'aimerais voir d'autres choses. Est-ce qu'il y a possibilité, s'il vous plaît, vous dirigeant, moi je vais aller au Real, non, moi c'est pas comme ça. Non, il n'est pas 8 ans le garçon. Enfin, c'est comme ça que moi je vois les choses.
Ok, merci beaucoup Benita. Merci d'être passé dans l'after et à très bientôt évidemment.
Ciao, tu es fidèle
de RMC. Oui, il y a beaucoup de gens qui peuvent être choqués aussi, de se dire, bon, comme toi Samy à l'époque, t'étais payé, t'avais un contrat avec Nice. T'es pas allé au bout de ton contrat et t'as dit, parce que je veux partir quand bon me semble, parce qu'il y a un club plus important, t'as dit, je boycotterai l'entraînement parce que je veux partir. Donc ça,
non,
ça peut
s'est
choquer
pas fait comme ça.
Mais t'avais encore un contrat.
Maintenant, moi, quand il me reste un an de contrat, c'est forcément, je commence à penser à mon avenir.
Oui, alors c'est vrai, un contrat, c'est un peu particulier.
Donc je commence à discuter avec mon club à qui il me reste un an de contrat en lui donnant ma priorité. Si au principe, il n'accepte pas que je lui donne ma priorité, il y a d'autres clubs qui vont accepter. C'est ce qui s'est passé.
D'accord.
Voilà. Donc après, une fois que tu sais que je me mets en conformité avec un club qui est plus gros que le nôtre, qui a été Nice, ne me demande pas un transfert inabordable pour le Paris Saint-Germain, pour un pauvre joueur comme Samy Traoré.
Là,
quand même.
Là, on est dans la discussion.
On est dans la discussion,
aussi,
voilà.
Difficile, aussi
ardu qu'elle soit. Voilà.
Mais en revanche, le sujet de je sors du cadre de la discussion, de l'affrontement avec mon employeur, et je me mets à la faute en n'allant pas m'entraîner, ça, comme l'a dit aussi Benita, là, c'est
peut-être.
C'est
mais alors, quels sont les moyens? Quels sont les moyens pour un joueur quand un club vous bloque, quand un club vous empêche d'aller dans un autre club? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire
un joueur Malouda, il en connaît un rayon. Hein, quand
qu'est-ce
il a été bloqué par Chelsea, bah, c'est de faire constater par huissier que le club te bloque. Enfin, que te bloque, ça va en donner.
Ah, bah, ça
un
prend
peu
du
comme
temps,
ce qui s'est passé puisqu'on parlait de Ben Arfa. Mais c'est d'autres. Après, il y a beaucoup de situations un petit peu différentes.
Oui, bien sûr.
C'est quand on t'empêche de travailler. À un moment donné, si le club te bloque, la période de transfert est terminée, quand on voit en CFA... qu'on ne te donne pas l'accès aux infrastructures des pros, là il y a la charte.
Ça c'est quand même surveillé, ouais, voilà.
Voilà, il y a la charte de l'UNFP en France qui fait foi et qui permet aux professionnels de pouvoir s'entretenir, dans des conditions pro et a fortiori avec le club avec lequel il est encore sous contrat.
Très bien. Ben on a fait le tour de cette question.
Il y a des devoirs dans les deux sens. Il y a des devoirs pour le joueur, mais il y a des devoirs pour l'employeur aussi, in fine.
Ça va dans les deux sens.
23h42 sur RMC. J'aime comme ça votre synthèse sur ce débat. Dans un instant, le quiz de l'after avec François.
Tu sais ce que j'aime moi.
Et Samy, oui.
Et
moi.
Tous les prénoms de tes cheveux. Je reconnais ce truc. Au moins deux ou trois. Putain, tu nous dois ça, merde. On a rien sur le caillou.
Non, mais il y en a tellement peu. Reste là surtout. Ben, je les appeler Samy et François. Dans un instant, le quiz, on vous attend en 32-16. Et puis j'ai des news de Pastore à vous donner. De Bielsa aussi et du Saint Bolt. Et oui, tout ça tout de suite sur RMC dans l'after.
C'est passionnant ça avec du Saint Bolt.
RMC, le super football show. L'after foot, François Pinet.
C'est reparti pour l'after, 23h45. On est encore ensemble pendant un quart d'heure et on va parler capillarité avec François Manardeau et Samy Poix. N'importe quoi. Samy Traoré, excuse-moi.
Bien sûr,
Samy Poix, vous le retrouvez.
Niveau kilo, c'est pas vrai, je veux
dire. Costaud, l'animal.
Samy, si tu nous entends. Non.
Alors,
partager les points
le quiz dans un instant et on vous attend évidemment au 32-16 pour gagner des cadeaux. Vous savez, dans l'after, le quiz de l'after, c'est avec donc François et Samy.
Samy, il est encore dans le train.
Au 32-16. Je vais vous montrer les images pour ceux qui nous suivent sur BFM Sport de Chelsea-Lyon. 0-0.
À la fin.
Match amical de gala. Mais après le 0-0, il y avait les tirs au but. Oui, il y avait une séance de tir au but juste après les 90 minutes. Là, on a vu un très beau coup franc de Willian, exactement. Willian qui était titulaire. Alors, ça a beaucoup tourné du côté de Lyon. C'était l'équipe qui était l'équipe a priori titulaire ce week-end qui était disposée au début.
Ah non.
Et c'est Hazard qui marque le but de la victoire pour Chelsea. Ouais. Victoire de prestige.
Bien frappé aussi.
Ça se passait à Stamford Bridge. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que Genesio avait mis en place son équipe a priori. Celle qui va mettre en place pour ce week-end, sans Fekir, hein, qui ne jouera pas ce week-end, mais qui sera célébré par le stade pour Lille Amiens. Et puis, du côté de Chelsea, il n'y avait pas les stars au coup d'envoi. Mais Hazard est entré et il a marqué le but de la victoire, le pénalty de la victoire. Jeudi, sur RMC Sport, en exclusivité à 19h, il ne faudra pas rater le match entre Mariupol contre Bordeaux, c'est le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa. Ça sera le match aller et ce sera sans Samuel Kalou, vous savez, la recrue dont on a parlé hier. La récente recrue, le Nigérian qui est en attente d'un permis de séjour, Poyet qui a retenu un groupe de 21 joueurs pour le déplacement à Odessa. Et alors, il y aura notamment le retour du milieu danois, Lucas Leraguer, touché au nez à Ventspils, qui était absent au match retour contre les Lettons et qui sera de retour. En Angleterre, communiqué aujourd'hui de Leeds, qui s'excuse auprès des supporters parce qu'il n'y a plus de maillot disponible, de maillot domicile de l'équipe, l'équipe coachée par Bielsa. Rupture de stock, le club qui parle dans le communiqué de vente dépassant les attentes pour expliquer cette rupture de stock. Si c'est pas un peu l'effet Bielsa, ça?
Oui, ça doit y participer, oui, ça doit y participer parce que Leeds, ils doivent se morfondre depuis quelques saisons maintenant dans le Championship. Et Leeds, ça fait partie de ces clubs comme Nottingham, comme Forest, évidemment, ou un degré moindre Aston Villa, qui ont perdu un peu de leur lustre.
Non, Bielsa, non, toi, ça t'emballe pas, Bielsa. Si Jonathan était là, il essaierait de te convaincre.
Il était content de ses 6 premiers mois, les six derrière, il a fait quoi?
À Marseille?
Bien sûr. Non, il propose un jeu différent, certes, mais après, moi, je suis pas convaincu. Je l'ai pas vu. C'est pas un entraîneur qui a gagné beaucoup de titres non plus.
Mais on juge pas forcément les entraîneurs que sur le palmarès.
sur la capacité à te faire gagner. Il y a rien d'autre.
Il y a quelque chose quand même d'autre.
Ouais, l'émotion. Tu parlais d'émotion tout à l'heure.
Mais ça, c'est quand t'es de l'autre côté. Je dis ah ça ouais, sans ironie. Sans...
Mais moi, je parle bien aussi des supporters. Ouais.
Le joueur pro, il est pas payé pour jouer au foot.
Bah, il y a des joueurs qui ont progressé aux côtés de Bielsa. Il y a des joueurs qui ont progressé sans doute.
Oui, tu peux.
Mais combien qu'ils ont explosé?
Bah je sais pas, mais un joueur comme Benjamin Mendy par exemple, il a beaucoup progressé. Benjamin Mendy a beaucoup progressé.
Tu tires toujours un peu des entraîneurs par qui t'es passé, tu essaies de tirer forcément le meilleur. Tu vas gommer un peu.
Ouais. Pochettino qui est passé tiens par les mains de Bielsa quand il était jeune, il en garde un souvenir formidable, entraîneur de Tottenham.
Mais t'es jeune. C'était une autre époque.
Il se trouve que je bossais au PSG à cette époque-là. Il était en sélection avec Bielsa. Il en garde pas un mauvais souvenir.
Bah, il a fait
pas formidable non plus.
Bah, il a fait une lettre de recommandation visiblement pour qu'il puisse travailler en Angleterre. Ce que j'ai entendu.
Putain, c'est la reconnaissance du ventre. C'est ouais. Bielsa qui le prend en sélection de l'Argentine quand il est au PSG. Il l'amène à la Coupe du Monde 2002. C'est une catastrophe l'équipe d'Argentine avec du matos, hein. Les Gallardo, les Batistuta, les Vérone. Ils sont sortis au premier tour avec la Suède, le Nigeria et l'Angleterre dans leur groupe. Qui est-ce qui est sélectionneur? C'est Bielsa, voilà. C'est Bielsa. Après, il a des qualités. Enfin, on va pas refaire à chaque fois le profil de Marcelo Bielsa.
On avance. Retour en France avec des célébrations pour les champions du monde un peu partout dans les stades ce week-end. On le disait pour Fekir, pour les Marseillais dès vendredi contre Toulouse, pour les Parisiens dimanche. Et il y aura aussi une fête ce jeudi, si vous voulez y aller. Ça se passera à Troyes, à la mairie de Troyes, pour Blaise Matuidi et Djibril Sidibé, puisque les deux joueurs ont débuté dans l'Aube. Blaise Matuidi qui est né, lui, à Fontenay dans le Val-de-Marne et qui ira ensuite à Fontenay dans le Val-de-Marne pour être célébré, puisque Blaise Matuidi est l'un des chanceux des champions du monde. Il est toujours en vacances, tout comme Corentin Tolisso. Ce sont les deux derniers à rentrer. Voilà.
Tant mieux pour eux.
Célébration. Toi, t'as pas de vacances, alors c'est pas grave, t'es dans l'after tout l'été. Célébration toujours pour Javier Pastore. Ça sera dimanche. Alors, il y aura la célébration pour Mbappé, Areola et Kimpembe. Pastore qui va retrouver le Parc des Princes. Vous savez qu'il a quitté le PSG pour la Roma, transféré après 7 années passées au Paris Saint-Germain. Il a laissé quand même des bons souvenirs. Il saluera une dernière fois les supporters parisiens avant PSG Caen. C'est bien de faire ça.
Ça va être magnifique. C'est très très beau de faire ça. C'est très classe et je pense que ça va être magnifique. Peut-être pas du niveau de, parce que c'est pas la même réussite de Rai quand il a quitté le Parc des Princes. Je pense qu'il est resté dans le cœur de tous les supporters parisiens, une affection particulière pour ce joueur. Ouais.
Qui divisait parce que certains l'adorent et puis certains trouvaient qu'il n'était pas
peut-être répondu à toutes les attentes qui ont été placées en lui.
Il a montré tellement de belles choses qu'il a placé la barre haute. Ouais.
Un joueur attachant et puis pétri de talent qu'on a vu par fulgurance. Moi, les 6 premiers mois qu'il fait à Paris.
Oh là là, magnifique.
J'ai le cul sur la chaise.
Honnêtement, tu l'as découvert à ce moment-là.
Oui, à Palerme.
Moi aussi, j'avais pas vu non plus à Palerme. Je l'ai découvert lors des premiers mois à Paris.
Contre Brest.
Voilà. Et moi contre Lyon aussi, où il s'amuse avec Chris.
Il y a tellement de matchs.
C'est quand même Chelsea en quart de finale de Ligue des Champions.
Contre le Barça aussi. Contre le Barça aussi, où il avait été l'un des meilleurs joueurs du Barça quand le PSG est éliminé.
C'est lui qui ouvre le score.
C'était le PSG version Ancelotti. C'est vrai qu'il n'a pas montré à chaque fois toute l'étendue de son talent. Il a eu aussi beaucoup de blessures. Et il a même avoué quand il est parti, quand il a rejoint la Roma, qu'il avait peut-être lâché un peu. Il avait peut-être lâché prise à un moment donné au PSG. Dans la tête.
C'est cette concurrence effrénée à Paris, ce projet qatari qui va un peu plus vite que la musique. Et qu'il l'a un peu dépassé. Je lui souhaite toute cette réussite à Rome qu'il a pas connue.
Ça serait beau. PSG toujours avec la déclaration de Buffon pour Kylian Mbappé. Gigi Buffon qui rappelle une anecdote ce que lui a raconté Barzali. C'était après le match Juventus-Monaco où visiblement Barzali lui avait dit c'est fou, j'ai jamais vu un joueur comme ça dans ma carrière. Et il explique. Il est évident qu'il possède quelque chose de plus que les autres, donc Buffon en parlant d'Mbappé. J'espère qu'il va rester humble et conserver cette envie de progresser et de se sacrifier. Si c'est le cas, il marquera l'histoire du foot et écrira des pages incroyables de ce sport. C'est bien, parce qu'au moins il le met en garde aussi. Hein. Il dit s'il conserve cette humilité. Vous voulez des nouvelles du Saint Bolt? La star jamaïcaine du sprint, multimédaillé aux Jeux Olympiques, recordman du monde du 100 et du 200 mètres. Alors, vous savez qu'il est attiré par le football quand même. Il a fait quelques stages à Dortmund notamment. Il est officiellement mis à l'essai par un club australien. Alors, on se demande si c'est pas que du marketing. Les Central Coast Mariners. Voilà, 31 ans, Usain Bolt. On ne devient pas un footballeur comme ça, hein, même si on va très vite, hein, Samy. Toi qui vas très vite, tu peux en parler.
Je veux plus vite que toi, hein, attention.
Ah bon, mais t'as des plus grandes jambes.
Ça a rien à voir ce que tu dis.
Le bon Rago, t'as des plus grandes jambes.
Ouais, il a des plus grandes jambes que moi, c'est normal.
Après, pour mon
poste, je vais vite, attention.
Mais moi aussi, t'inquiète pas. J'ai de bon reste encore, avec un genou boitillant. Après, s'il veut venir, même je le ramène, moi, à choisir avec nous s'il veut faire un essai.
Ah oui, ça serait sympa, ça.
Je le mets devant, attaquant, on va voir ce qu'il donne.
Ouais, pourquoi pas. On l'a vu avec l'équipe de France 98.
À l'occasion de lui proposer, j'ai un essai pour lui à choisir.
Ouais. D'accord. Je sais pas s'il nous écoute, je pense pas, mais pourquoi pas. En tout cas, le message
bien
est passé.
Bien sûr qu'il nous écoute, regarde les lunettes qu'il a mis.
Il nous écoute, bien sûr. Et puis, un dernier mot avec Iniesta. Alors, c'est pas très, radiophonique. Je vous l'accorde, mais vous pouvez aller voir sur le hashtag RMC Live, on va vous la diffuser. Match du Vissel Kobe contre le FC Tokyo. Vissel Kobe, c'est le nouveau club d'Andrés Iniesta. Sauf que, l'ancienne vedette du Barça annonce son forfait. Les dirigeants du club du Vissel Kobe trouvent une solution pour contenter les fans. Ils se disent, mince, on a quand même vendu 50 000 billets, alors qu'on aura vendu un Iniesta présent. Iniesta n'étant pas présent, ils ont trouvé une solution. C'est le sosie d'Iniesta.
Il ressemble, mais au niveau du vide, en revanche, il ressemble
et
pas.
Et si vous êtes à la radio, bon, vous pouvez pas le voir. En revanche, on le voit sur BFM Sport.
Il ressemble rien du tout, de toute façon.
C'est le sosie d'Iniesta japonais.
C'est sosie d'Iniesta japonais, mais au niveau du bidon, entre la bière et la tempura,
il y a que le front qui se ressemble.
Il y a pas grand chose, hein, franchement.
Le front.
Allez, c'est parti pour le quiz. On accueille Thibaut et Karim au 32-16. Salut Thibaut,
bonsoir,
salut Karim.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Thibaut.
Alors, il y a un supporter du PSG. J'imagine que tu veux être avec Samy.
Bah, Karim. Oui. Allez, pas de problème.
Karim avec Samy.
Ça va être dur, hein, Karim.
Où tu peux. Et Thibaut.
Allez, on va essayer.
Thibaut. 5% pour Marseille, moi.
Thibaut, t'es avec François Manardo. Bon courage.
Il n'y a pas Jonathan, mais il y a François, donc c'est bon.
Alors, il faut pas donner le thème du jeu, visiblement. C'est un qui suis-je. Il faut trouver qui sont les joueurs comme question pour un champion. On va aller vite parce qu'il nous reste que 4 minutes.
Ça marche.
Attention, vous n'avez le droit qu'à une seule réponse par personne. Hein. Donc si François, tu réponds mal, tu laisses Thibaut répondre pour toi. Ouais. Okay. Je suis un jeune attaquant ailier de formation. Cette formation, je la commence en France, à Auxerre, avant de m'exiler rapidement en Angleterre. C'est d'ailleurs là-bas que je joue mes premiers matchs pro, mais j'ai beaucoup de mal à m'imposer. Je suis donc prêté aux Pays-Bas, d'abord au Vitesse Arnhem, puis à l'Ajax d'Amsterdam. En 2017, je reviens en France et à 22 ans, je semble enfin avoir trouvé ce club et ce championnat qui me correspond. Je suis de nationalité burkinabé. Mon deuxième prénom est Isidore, mais je suis plus connu sous le nom de...
Marine. Non.
Traoré.
Traoré, qui a dit Traoré, c'est Karim. C'est Karim. Un point pour Karim et Samy. Bravo, Bertrand Traoré. Milieu de terrain de 35 ans. J'ai beaucoup voyagé au cours de ma carrière. Je débute dans mon pays d'origine en junior avant de signer mon premier contrat pro à Bastia. C'est dans un autre club français que je me distinguerai. J'y serai même élu meilleur joueur de Ligue 1 en 2005.
Etienne,
Karim?
Ouais.
C'est ce que t'as dit, Etienne?
Oui, oui.
Eh ben, Bravo. Ça fait deux points, Mickaël Essien. C'est bien lui, exactement. Bravo. Sélectionné à 60 reprises avec le Ghana, il a joué à Lyon, je réponds au prénom de Mickaël, je suis Mickaël Essien.
Bon. Allez.
Allez, 2-0, hein, pour Karim Essien.
Allez, François.
Moi aussi, je suis milieu de terrain, mais plus porté vers l'avant. J'ai aujourd'hui 38 ans et je joue encore au Luxembourg. International français à 80 reprises entre 2004 et 2012. Je suis depuis 2017 international guyanais.
Malouda,
ça compte pas, Samy, c'est Malouda.
Luxembourg, Flo Malouda.
Eh oui, Flo Malouda qui joue encore au Luxembourg, passé par Guingamp évidemment et par Chelsea et Lyon. On continue avec les milieux. Je suis portugais pour ma part. J'ai mis un terme à ma carrière en 2017. Je suis d'ailleurs devenu entraîneur adjoint dans un club où j'ai terminé ma carrière. J'ai donc débuté dans mon pays avant de rejoindre l'Angleterre pour un bref passage. On parle encore de Mickaël Essien puisque mon départ pour un club français fait suite à l'arrivée du Ghanéen à Chelsea. Je joue deux saisons en France, entre 2005 et 2007.
Thiago,
bonne réponse. Ah, deux partout. Ah ouais. Thibaut et Karim, vous êtes à égalité.
Allez, Karim.
Ça va être chaud, hein. Ouais. Il y en a encore un pour départager. C'est parti.
Allez.
Si vous êtes intelligent, vous avez compris le thème du quiz. Mais je ne dis rien de plus.
Dis donc, tu vas pas nous jouer à Ramona.
Ah, d'accord. Bah, si vous réfléchissez un peu. Attaquant polyvalent, j'ai moi aussi beaucoup voyagé. Formé à Lyon, je m'essaie ensuite dans différents clubs français avec plus ou moins de réussite avant de partir en Angleterre. C'est un échec, même si je suis passé par un grand club londonien et je rebondis finalement en Espagne pour la saison 2017-2018. Non, faux, Samy. Cet été, j'ai fait mon retour dans le nord de la France. Je suis Loïc Rémy.
Oui,
victoire de Thibaut.
J'aurais pu sortir Canouté, hein. J'aurais pu le sortir. Il n'a pas joué à West Ham, Canouté.
Si, West Ham, mais je pensais Séville.
Thibaut, bravo. Tu as gagné un t-shirt de l'After, je pense. Qu'on va t'offrir ça.
Excuse-moi, Karim.
Karim, tu pourras rejouer. C'est pas grave. Samy était pas mal, mais.
Je suis désolé, Karim.
3-2 pour la victoire de Thibaut et François.
Quand il a sorti Canouté.
Pourquoi je vous ai dit, si vous êtes intelligent, vous pouvez comprendre. Tous ces joueurs.
Je suis foutu de notre gueule.
Tous ces joueurs. Merci à Thibaut et Karim, bien sûr. Tous ces joueurs, Bertrand Traoré, Michael Essien, Florent Manouda, ouais. Thiago, Loïc Rémy. Quel est le point commun?
Bah, Lyon.
Passé par Lyon.
Et par
Guingamp. Chelsea.
Par Chelsea. Mmh. Il y avait Lyon-Chelsea ce soir.
Putain, Loïc Rémy,
c'est pour ça qu'on vous a fait ça. Bon, voilà, c'est terminé
c'est
pour l'after.
C'est pour ça que vous nous avez fait ça. Mais qu'est-ce que vous êtes intelligent.
Merci François, merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Samy.
Merde.
Et une belle victoire pour François Ménardot. On vous retrouve demain messieurs avec Jean-Christophe Drouet qui sera aux commandes.
Ça fait mal de
ça sera 22h minuit bien sûr l'after toute la semaine avec le retour de Nicolas Villas pour le championnat de France en Ligue 1, début vendredi. La première ligue aussi sur les antennes d'RMC Sport, ça sera le début vendredi. Merci à tous de nous avoir suivis, bonne soirée, bonne nuit et à bientôt sur RMC BFM Sport.
RMC, le super football show, l'after foot.